la pianiste du jazz.
Hier et aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
L'idée de l'émission de ce soir nous a été donnée par un film que nous avons récemment vu, Amura, un film absolument remarquable.
Ce film est étonnant parce qu'il explique ce qu'est devenu une des formes de la musique traditionnelle, c'est-à-dire ce que sont devenus les danseurs. C'est vrai qu'il y a 100 ans, tout le monde dansait en Auvergne, la bourrée, les Scottish, les mazurkas, les valses. Et puis, ça s'est un peu diminué, de plus en plus diminué, jusqu'à n'avoir plus comme représentant que des groupes folkloriques qui faisaient des spectacles, mais c'était un très petit nombre de gens, et qui faisaient des spectacles pour les autres, les spectateurs ne dansant pas, ou alors des gens qui avait un peu changé de musique et qui dansait sur du musette avec des passodobles, des choses comme ça qui n'étaient pas notre tradition. Et au fond, on est en train de voir dans ce film extraordinaire que les jeunes ont repris en main toutes nos traditions. Alors là, elles sont variées, hein, parce qu'elles ne sont pas que auvergnates. Il y a aussi des formes celtiques, il y a aussi des formes d'autres pays, si on peut dire, mais c'est européen. Ils les ont repris et ils en ont fait quelque chose pour eux. Qui leur correspond, qui est jeune, qui est vivant. Et alors là, il y a des centaines et des centaines de danseurs. C'est merveilleux.
Voilà pour le trad.
On va vous parler du jazz, parce qu'il y a plein de parallèles.
À première vue, ça n'aurait aucun rapport, mais en réalité, comme tu dis, nous sommes en pleine analogie, puisque, rappelons-le, le jazz est une musique populaire.
Traditionnelle.
Quand on va parler de jazz, nous allons trouver un parcours, une évolution un peu similaire, mais infiniment plus grave. Là, tout s'y est mis pendant les années 40. Il y a eu la guerre, il y a eu des épisodes syndicaux très graves qui ont compromis toutes les séances d'enregistrement instrumentales. Il y a eu le développement de la radio et du commercialisme. Il y a eu un système d'impôts qui a changé pour les endroits où on pouvait écouter de la musique. Enfin bref, tout s'y est mis. Et la cerise sur le gâteau a été l'arrivée dans les années 40, à la fin des années 40, d'une musique complètement différente, qui était une musique tirée des canons européens et qui a été baptisée jazz moderne. À écouter tout ce qu'on nous raconte sur le jazz, c'est devenu finalement une musique de concert. Par exemple, si vous prenez le dictionnaire du jazz actuel, tel que publié par les éditions Robert Laffont, vous trouvez cette phrase au début de l'article « Danse ». Longtemps indissociable du jazz, la danse fut d'abord, etc. Longtemps indissociable, mais elle l'est toujours indissociable, exactement comme la danse trad est indissociable de la musique trad. Actuellement, dans le jazz, comme pour la musique traditionnelle de chez nous, les choses sont en train de changer à partir des jeunes et on assiste à une sorte de retour à la musique de danse. Nous avons donc préféré ouvrir un autre dictionnaire du jazz qui nous a semblé marqué au coin du bon sens et qui reflète plutôt ce qu'on voit et ce qu'on entend.
Le jazz est une musique de danse. Non pas une musique sur laquelle on peut danser, mais une musique inséparable de la danse, née en même temps qu'elle. Musique et danse ne sont en effet pour les Noirs, et ceci est vrai des Africains aussi bien que des Noirs américains, que les deux facettes d'un seul et même art. Deux façons différentes d'exprimer une seule et même chose. L'une s'adressant à l'ouïe, l'autre à la vue. Elles sont si étroitement liées dans le jazz, qu'on ne sait parfois où finit l'une et où commence l'autre. De même que le swing d'un orchestre nourrit, stimule les danseurs, de même le swing des danseurs inspire les musiciens.
On est en plein dans le sujet et ça remonte vieux. Là, nous allons reculer de presque un siècle.
On va vous faire un petit tableau de comment c'était la danse depuis les débuts du jazz jusqu'aux années 40.
Et puis après, dans une émission future, mais rapprochée, nous vous brossons un autre tableau. C'est le tableau actuel. En 2019, nous vous ferons écouter les orchestres de jazz français qui jouent pour la danse. Et bien franchement, en plus, ce sont les meilleurs. Et maintenant, un grand saut dans le temps. Thank you. Je pense que certains d'entre vous ont reconnu un morceau de King Oliver, le fameux orchestre de King Oliver où Louis Armstrong a fait ses débuts comme deuxième trompette de son maître. Et ça s'appelait Snakerag.
Effectivement, ce qui est assez amusant, c'est que vous retrouvez dans le jazz, comme dans la musique traditionnelle, je dis d'Auvergne et même de France, des imitations d'animaux. C'est assez rigolo parce que Snake, c'est le serpent.
Oui, là, c'était le rag du serpent.
Le rag du serpent. Et nous, qu'est-ce qu'on a comme morceau, le rat, la belette, le loup, tout y est pour exprimer quelque chose que les danseurs vont plus ou moins imiter.
Pour le plus grand bonheur des musiciens qui les regardent. Et là, l'orchestre que vous venez d'entendre était tous les soirs à faire danser un millier de danseurs au fameux Lincoln Gardens de Chicago. Et ça, c'est au début des années 20. Tu as parlé des danses animalières, en quelque sorte. Eh bien, voici une autre qu'on doit à Jelly Roll Morton. Ça s'appelle...
Je ris parce que ça s'appelle Turtle Twist. Alors, vous imaginez une tortue en train de twister. Génial.
Très dur, très dur. Et là, nous allons reculer encore plus loin, puisque nous voici au temps de l'esclavage. Et là, déjà, la danse était extrêmement présente.
Il y a des danses qui sont aussi des danses un peu moqueuses, un peu malignes. Quand il y a trop d'oppression, qu'est-ce qu'on fait ? On rit, on se moque. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec le cakewalk. Dans les plantations, les maîtres, ils utilisaient bien sûr les esclaves pour toutes choses, y compris la musique. Ils avaient des esclaves qu'ils avaient formés à la musique, ils les avaient choisis, des bons petits musiciens, puis leur avaient fait apprendre plein de morceaux pour danser pour eux, les blancs. Et Finalement, les Noirs, ces morceaux, alors c'était des quadrilles, c'était des choses de l'époque, hein, même jusqu'au valse. Hein. Et alors les Noirs, une fois qu'ils avaient fait leur partition correctement, hein, pour les maîtres, c'est-à-dire de la musique européenne, une fois rentrés dans leur espace à eux, ils s'amusaient. Ils s'amusaient en transformant ces morceaux européens pour en faire des morceaux à eux.
Et naturellement, quand ils étaient rentrés chez eux et qu'ils faisaient de la musique, les danseurs commençaient à imiter leur maître en train de danser et de faire des manières et des mondanités et des chichis et ceci et cela.
Et ça faisait énormément rire les copains. Les maîtres, quand ils ont vu que les esclaves dansaient leur danse, ils n'ont pas vu le rire, la moquerie, et du coup ils demandaient aux esclaves de se produire devant les invités. Finalement, c'est le moqueur moqué.
Exactement, parce que de leur côté, les maîtres étaient généralement convaincus que leurs esclaves faisaient ça par admiration pour leur grâce. Et de là est venue l'idée de faire des concours de danse d'esclaves, et les meilleurs recevaient en récompense
un morceau de gâteau. Voilà la raison de Cake Walk.
C'est la danse du gâteau. Et là, nous allons quand même vous envoyer une pièce paléolithique. C'est pas un enregistrement parce qu'il n'y en a pas. Le cylindre enregistré existait déjà, mais on n'a pas enregistré ça sur un cylindre. En revanche, les pianos mécaniques étaient déjà très répandus et on pouvait poinçonner des rouleaux. Et voici un rouleau poinçonné par un illustre inconnu en 1897.
Ce qui ne nous rajeunit pas.
À force de force, on est à 120 ans de distance, là. Et ce morceau s'appelle « At a Georgia Camp Meeting » et c'est un cakewalk. Maintenant, nous allons partir dans l'autre sens. Les esclaves sont libres, ils forment une société extrêmement homogène, et on y danse et on y invente sans arrêt quelque chose. Et peu à peu, il se dégage plusieurs danses dominantes, mis à part les danses animalières de toutes sortes. Et la première que nous allons évoquer s'appelle le Black Bottom.
Black, noir, bottom, c'est le nom poli pour dire le cul. Et c'est une façon encore assez ironique de se moquer de la façon dont les Blancs les voyaient, c'est-à-dire les culs noirs. Hein. Ça se disait beaucoup chez les Blancs. Ça veut dire aussi le fin fond du quartier noir, quoi. C'est tout simplement un tape-cul que nous connaissons dans notre musique traditionnelle de France. Hein. Il y en a des tape-queues, il y en a partout. C'est rigolo, ça amuse tout le monde.
Et chez nous, dans le Cantal, ça s'appelle...
La Togne.
Si vous avez le bonheur de voir le biopic consacré à Bessie Smith qui s'appelle Bessie, qui est passé à la télévision plusieurs fois déjà, vous y verrez Ma Rainey et Bessie Smith en train de danser le Black Bottom. Et je dois dire que ça ne manque pas de sel. Par Jelly Roll Morton, que nous retrouvons, voici Black Bottom Stomp. Et puis un beau matin, on invente autre chose fondée sur un rythme assez particulier qui alterne avec la pulsation régulière du jazz. Le rythme, c'est le rythme pam, 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 pam. Et ça, ça s'appelle le rythme
Charleston. Vous savez, quand il y a beaucoup de danseurs, les danseurs, ils veulent pas tout le temps les mêmes figures, les mêmes danses. Donc, ils demandent « inventez-nous des choses ». Et ça, ça existe absolument partout. Chaque année, même encore actuellement, vous avez des danses nouvelles. On dit que c'est une danse à la mode, si, ça, ça ne dure pas forcément bien longtemps. Mais à l'époque, le Charleston, ça a été une danse d'abord américaine, et puis qui est devenue planétaire.
Elle a eu un énorme succès. Il y a eu des concours, des marathons, et puis le Charleston est une danse qui ne se danse pas forcément en couple. C'est une des rares où on peut danser tout seul, ou en rond, à plusieurs, enfin... Voilà. C'est une question de pas. Alors, vous connaissez tous ce pas qui désarticule un peu le genou, mais modestement chez les danseurs modestes. Mais on allait vers des figures acrobatiques et des vrais désarticulés quand on dansait le Charleston. Et puis, il y a des figures très amusantes, tu sais, quand on croise les mains sur les genoux, etc. Bon, bref.
Il y avait un avantage à ce Charleston, c'est que vous étiez un danseur moyen, vous pouviez faire des figures sans grande difficulté et vous étiez un super danseur. Eh bien là, c'est ce que tu disais, il y avait des figures acrobatiques.
De tout niveau. Le Charleston, c'est aussi un morceau de musique qui est fait selon ce rythme-là et qui a été composé par le seul et unique James P. Johnson, c'est un des grands pianistes de Harlem. Ça vient juste après le ragtime, le piano stride. Et là, chose curieuse, James P. Johnson l'a pratiquement pas enregistré. J'ai jamais su pourquoi. Et nous allons donc nous réfugier de nouveau dans un rouleau de piano mécanique qu'il a poinçonné avec un medley qui commence par le morceau Charleston, dont le vrai titre est Charleston, South Carolina. Et maintenant, voici une autre danse. Alors, celle-là, elle est directement branchée sur le blues, c'est-à-dire que nous sommes là au ras des pâquerettes de la musique populaire. Il faut penser au Mississippi, à la Louisiane, à tout un tas de zones agricoles qui ont produit une infinité de musiciens, lesquels ont fini par se retrouver à Chicago à partir des années 20.
Ça s'appelle le boogie-woogie. C'est une danse qui bouge, je peux vous le dire. Ça remue, là.
Et c'est justement, sans doute, du mot français « bouger » que vient le mot « boogie », et pas du tout comme on le raconte, parce que en France, on pense aux équipements de chemin de fer qui s'appellent des bogies, mais c'est quand même pas des bogies. Et aussi au bruit que les roues font sur les rails, qui est une sorte de shuffle. Bon, c'est une coïncidence. Mais au départ, on bouge. Et rappelons-nous que dans le Sud, pas mal de gens avaient des dialectes où il y avait du français. Bref, le boogie est, chez les Noirs américains, une danse extrêmement populaire depuis très longtemps. Et voici qu'on a décidé de l'enregistrer. C'est pas trop tôt.
Celui qui l'a enregistré le premier s'appelle Pine Top Smith. Oh, il est mort jeune, le pauvre. Hein, il est mort à 25 ans à son piano, parce qu'il était en train de jouer. Et il y a eu une bagarre. Une bagarre, un coup de feu. Et puis, c'est tombé sur le pauvre pianiste qui en est mort.
Une balle perdue. Et cette balle perdue, il l'a prise en plein buffet, 3 mois après l'enregistrement que vous allez entendre, et qui a été publié sous le nom de
Pine Tops Boogie Woogie.
Évidemment. Tout en jouant, le pianiste donne ses instructions aux danseurs.
Ah oui.
Vous pouvez l'entendre, expliquer comment ça se danse, le boogie woogie.
Oui, comme on fait beaucoup dans certains baltrades où un membre de l'orchestre explique avancer, reculer. Et ça se passe comme ça aussi dans le country.
Et ce disque est donc devenu doublement légendaire, d'abord en raison des circonstances de la mort de son auteur, et ensuite parce que c'est le tout premier. Après, il y a eu beaucoup de pianistes de boogie woogie, de très grands noms, de très grands artistes. Et de nos jours, le boogie woogie est parfaitement vivant, comme l'illustre chaque année le fameux festival de la Roquebrue. Allez à la Roquebrue, c'est à la mi-août chaque année. Renseignez-vous.
New Orleans. It is my pine top truck. I want everybody to dance them just like I tell you. And when I say hold yourself, everybody get ready to stop. And when I say stop, don't move a peg. And when I say get it, everybody do a boogie woogie. Hold yourself now. Boogie woogie. Now that's what I'm talking about. Now when I say hold yourself this time, y'all get ready to stop. And when I say stop, don't move. When I say get it, everybody mess around. Hold yourself. Mess around. Now that's what I'm talking about. With the red dress on. You come right up here where Mr. Pine Top is. Now, faced audience. And when I tell you to hold yourself, you get ready to stop. And don't move a peg. And when I say get it, I want you to shake that thing. Hold yourself now. Shake that thing. That's what I'm talking about.
Et maintenant, nous allons passer aux formes que nous connaissons bien maintenant parce qu'elles commencent à ressusciter. On a appelé ça le rock acrobatique, on a appelé ça le bebop, juste après-guerre, alors que ça n'avait rien à voir avec la musique bebop. Mais en fait, cette danse est née aux États-Unis, comme toujours, dans les grands dancing de la fin des années 20. Et ça s'appelait le Lindy Hop.
Alors là, c'est sportif. On en parle tout le temps du sport, mais là, c'est vrai que c'est fait pour des gens jeunes, vifs, acrobatiques et qui n'hésitent devant rien.
Et là, vous avez un livre absolument fabuleux en français. Son auteur a passé une grande partie de la fin de sa vie en France. Il s'appelait Frankie Mannings et c'était un des très grands danseurs de Lindy Hop depuis l'origine de cette danse. Il a inventé énormément de choses, de figures et de pas dans cette danse-là. Frankie Mannings, c'est facile à trouver et franchement, c'est un document formidable. Et pourquoi ça s'appelle le Lindy Hop, hein, je vous le demande.
Eh bien, figurez-vous que c'est le titre d'un journal. Et pourquoi donc? Eh bien parce qu'il y a eu un extraordinaire événement. C'est Lindbergh qui a traversé avec son avion l'océan. D'Amérique, il est passé en Europe et ça a fait la grande, grande une de tous les journaux.
Ah oui, c'est le grand exploit de l'année 1927.
Et hop, c'est tout simplement, ça veut dire c'est le grand saut quoi.
Et cette fameuse une d'un quotidien américain s'intitulait Lindy Hops. The Ocean. Nous vous recommandons d'aller sur YouTube et de faire Elsa Poppin. Vous verrez l'intermède jazzistique de ce film impérissable dont on raconte que Louis de Funès le connaissait par cœur. Et là, justement, vous verrez Frankie Mannings en train de diriger sa troupe de danseurs qui s'appelait les Kangaroo Dancers. Thank you.
beat a beat. I feel a rhythmic brainstorm coming on. One, two, keep that rhythm heat. One more riff like that and I'll be gone. Oh man, don't stop now, we're jumping. Give everything to Lord now. This thing might turn into something. I ain't mistaken, here comes something now.
Imaginez bien qu'une population aussi folle de danse, avec parfois des dancings avec 2000 danseurs, c'est impressionnant. Deux orchestres qui se relayaient, on y passait toute la nuit, c'était la folie. Imaginez-vous qu'on était obligé de changer les planchers de ces salles de danse tous les 6 mois. Incroyable, hein ?
Et tout ça, justement, c'est très bien raconté par Frankie Mannix, qui était un des piliers de ce dancing qui est le plus célèbre de tous les grands dancings noirs de l'époque, qui s'appelait le Savoy. Alors, l'orchestre titulaire, l'orchestre maison du Savoy, c'était celui de Chico Ebla, où a débuté Ella Fitzgerald. Et nous allons vous faire entendre un morceau qui s'appelle Harlem Congo.
Congo, c'est un mot un peu argotique pour dire terrain. Et effectivement, les gens s'y rendaient pour aller soit regarder des spectacles de cirque, les cirques s'y installaient, soit pour danser, tout simplement. Il n'y avait rien qu'un terrain libre, bien plat. Voilà, c'était le Congo.
Et le dimanche, il était réservé aux Noirs. Et bien, justement, ce morceau s'appelle Harlem Congo, parce que c'est un morceau totalement tourné vers la danse, vers ce souvenir des danses trépidantes de ces fameux terrains, dont le plus célèbre est à Nouvelle-Orléans, le Congo Square, et on m'a dit qu'il existait toujours, mais maintenant c'est un joli jardin public.
Thank you.
naturellement, il y avait des grands dancing ailleurs qu'à New York. Et nous voilà à Boston. Alors là, l'enregistrement est sur le vif. Vous allez pouvoir apprécier la dynamique de la chose. Et on entend même les danseurs exprimer leur enthousiasme de temps en temps.
L'orchestre qui joue, eh bien, c'est celui de Count Basie au Southland Ballroom de Boston.
C'est enregistré sur le vif, donc c'est extrêmement pétulant. Et on y entend Lester Young jouer d'une manière qui peut-être étonnera certains. Parce que Lester Young aimait tellement jouer pour la danse que ça s'entend souvent à cette époque-là dans sa façon de jouer. Le morceau, ça part d'une sonnerie de cavalerie et ça s'appelle Bugle Call Rag. Qui était celui de
Jimmy Lunsford. D'ailleurs, c'était assez intéressant parce que l'orchestre se présentait de façon un peu cérémonieuse. Ils étaient toujours impeccables, les souliers cirés qui luisaient. C'était un orchestre qui avait beaucoup d'allure.
Et qui était formé, chose assez étonnante, au départ, d'un professeur de musique et de ses élèves. Ils avaient repris quelques idées assez anciennes, comme celle de sortir de scène un par un. Tu sais, les gens s'en vont peu à peu, plouf, comme
dans la surprise de Haydn, où là, c'était très visible parce que à l'époque de Haydn, chaque musicien avait une petite bougie pour éclairer sa partition, naturellement. Alors, chez Haydn, eh ben, les musiciens, il y en avait un qui soufflait sa bougie, il s'en allait, puis l'autre soufflait sa bougie, et puis finalement, ben, le dernier, il y avait un tout petit lumignon, il soufflait, ça y est. Il n'y avait plus personne.
Mais c'est exactement comme ça, mis à part les bougies, naturellement, que l'orchestre de Jimmy Lunsford, quelquefois, sortait de scène. Il y a un film de cet orchestre, il a été très peu filmé, mais il y a un film assez étonnant, où on voit donc toute cette bande de gens absolument tirés à quatre épingles, extrêmement sérieux, très sages, qui jouent un morceau qui évolue peu à peu vers une sorte de délire, puisque à la fin du morceau, les trompettistes envoient leur trompette au plafond, et il n'y en a pas un seul qui a raté la récupération.
Encore heureux, ouais. Parce que vous savez le prix d'une trompette, hein ?
Oui, ça vaut très cher. Et le morceau de Lunsford que vous allez entendre, s'appelle naturellement, nous avons choisi celui-là, s'appelle Four Dancers Only.
Puis arrive la tap dance, en français danse à claquettes. Il s'agit de quoi ? Eh bien, il s'agit de gens qui portent des chaussures avec des petits bouts ferrés, aussi bien pour le talon que pour le devant de la chaussure, et qui vont faire, en dansant, une sorte de rythme absolument endiablé, extrêmement tonique. Et ça a été une mode. Alors là, carrément, je dirais pas mondial, parce que je sais pas, je pense pas que les Chinois en aient fait partie.
Quoique.
Mais en tous les cas, européenne et américaine, c'était une mode dont, par exemple, vous avez une petite gosse qui a commencé vers 6 ans, je crois 7 ans, et qui s'appelait Shirley Temple, et qui a été prise au départ pour faire des films parce que elle faisait de la tap dance d'une manière tout à fait étonnante.
Et là, idée géniale, on l'a mise en tandem avec le roi de la danse à claquettes, c'est-à-dire Bill Robinson. Il y a pas mal de films où ils sont tous les deux, et vraiment, c'est très amusant à voir.
Et ça a fait un succès absolument inimaginable.
Et pour vous faire entendre Bill Robinson, parce qu'évidemment, les claquettes, c'est également visuel, mais là, quand même, c'est assez frappant. Vous allez entendre l'orchestre de Don Redman, et à un moment donné, arrive Bill Robinson et ses claquettes. Et là, l'orchestre change carrément de vitesse. Non pas de tempo, mais d'intensité de la pulsation. L'apport de Bill Robinson là-dedans est absolument incroyable.
Doing the new lowdown.
Listen, good folks, it isn't alcohol, no y'all again at all. Thrill me with the pep I've got. I got a pair of feet that have found that lowdown beat. Low down, down around the spot that's hot. Have no peace, losing my lease on living. Here's the how I'm telling you now to give in. Make 'em play that crazy thing again. I got to do that lazy swing again. hi-ho, doing the new lowdown. Got my feet to misbehaving now, got a soul that's not for saving now, hi-ho, doing the new lowdown. That dancing demon, he has my feet in a trance, 'cause when I'm dreaming, folks, I go right into that dance. Once you hear that haunting strain to it, I bet my life you'll go insane to it. Hi-ho, doing the new lowdown.
Les danseurs à claquettes formaient un club très fermé et on les appelait les Hoofers. Il y a une très jolie séquence sur le Hoofer Club parce qu'en plus ils se retrouvaient ensemble pour rivaliser, inventer, comparer leurs trouvailles, etc. dans un local qui s'appelait donc le Hoofer Club. Et il y a deux films très intéressants à ce sujet. Un qui s'appelle, je crois, Tap, et l'autre, surtout, de Francis Ford Coppola, qui s'appelle Cotton Club. Ça pourrait nous ouvrir, si nous avions une émission de deux heures, une autre émission sur la danse comme spectacle, mais c'est une autre histoire. Pour terminer, voici de la danse à claquettes plus récente, et là, il s'agit de Jimmy Slide. Et là, nous allons rester au cinéma, puisque ce que vous allez entendre est tiré d'un film fabuleux qui s'appelle L'aventure du jazz, qui a été réalisé par le cinéaste Louis Panassier, et supervisé par son père, Hugues Panassier. Et là, il y avait une idée absolument géniale, c'est de mettre un danseur à claquettes en face d'un ancien danseur devenu batteur, immense batteur, qui s'appelait Joe Jones, et de compléter ce tandem avec un guitariste, à l'époque, un très jeune guitariste, formidable, qui est devenu très célèbre comme crooner, d'ailleurs, après, qui s'appelle George Benson.
Il se trouve que Laurent, qui est en face de moi, se trouve être l'assistant de Louis Panassier, qui a fait le film, et il m'a raconté une anecdote tout à fait amusante à propos de Jimmy Slide.
Jimmy Slide était arrivé au studio avec ses plus beaux atours dans une très belle housse, et il avait apporté des chaussures à claquettes toutes neuves. Il était tout content de les étrenner devant la caméra. Et le réalisateur, heureusement, lui a dit « Vous laissez tout ça, vous oubliez, vous mettez vos chaussures qui ont un peu vécu, là, vos chaussures habituelles, et vous restez habillé comme vous êtes venu. » Et c'est comme ça que dans cette séquence, que vous pourrez voir sur YouTube, parce que Louis Panassier a eu le bon esprit de la mettre sur YouTube. Vous faites Jimmy Slide avec un Y et vous la trouvez. Et vous verrez Jimmy Slide en tenue d'été avec sur la tête la casquette qu'il portait invariablement. Le morceau s'appelle Mr. X et il y a un très joli passage d'alternance entre la danse et les instrumentistes.
C'était la planèse du jazz.
À la planèse prochaine.